On est en direct, je te confirme.
Ça,
Salut
c'est cool,
Mousse.
j'adore le direct, moi. Salut, ça va?
Ça va et toi?
Ah, très bien, très bien.
Merci d'être venu nous voir ici, Mousse de Mousse et Hakim, qui viennent à Esperanza fêter 20 ans de carrière. Comment ça s'est passé l'arrivée depuis la Vendée?
Ben oui, on était en concert en Vendée, donc on a pris un bus qui était prévu à cet effet, qui nous a amenés jusqu'ici. On s'est réveillé dans ce cadre magnifique, hein, à la fois historique et festif, on va dire. Donc c'était très bien. Je suis dans ma phase de réveil, mais vraiment dans l'endroit qu'il faut.
Le frangin est en forme aussi?
Il est en forme, il va bien, ouais.
Allez-y.
Bah oui, on parlait donc hors antenne de tes premières impressions sur le site, le festival. Tu peux peut-être en dire un peu plus aux auditeurs, justement.
Oui, je trouve assez intéressant l'association d'une démarche comme ça, de festival, avec une démarche de village, d'accueil, un peu de démarche particulière, en dehors des concerts, parce que les concerts, voilà, c'est des concerts, quoi. Je veux dire, on est là aussi pour faire la fête et faire des concerts avec le public et partager. Mais il y a ce rapport-là que je trouve hyper intéressant entre ce lieu, l'abbaye, ce lieu historique, ce que ça représente justement par rapport à l'histoire d'une région, voire même d'un pays ou d'un continent, et des démarches nouvelles, générationnellement, qui nous parlent assez par rapport à nous, nos démarches à Toulouse, quoi, localement, et c'est vrai que ça nous parle. Ça nous parle parce que c'est toujours intéressant. Pour nous, c'est l'idée qu'on se fait des évolutions de l'identité. Enfin, ça, c'est un mot qui est souvent utilisé et qui donne envie de vomir ces derniers temps. Je pense qu'en Belgique, c'est un peu pareil.
C'est vrai qu'on l'entend un petit peu à toutes les
À
sauces.
toutes les sauces, comme un truc un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lâchent, qui revendiquent l'idée d'une identité figée. Cette idée qu'on est comme ça et pas autrement. Alors nous, on est plutôt du genre à avoir un rapport à nos origines, puisqu'on est d'origine algérienne, qui est un rapport qu'on veut serein, mais pour qu'il soit serein, il faut qu'il soit en mouvement et en évolution, et que la tradition, pour nous, elle est intéressante si elle bouge, et si c'est juste une base pour aller vers ailleurs, et pas seulement quelque chose qui dit, bon, on est là et on va pas plus loin. Donc c'est intéressant d'être dans un lieu comme ça, qui est une abbaye, je crois, qui est du 12e siècle, c'est ça? Et d'avoir cette démarche générationnellement qui est complètement différente et particulière. Et ça, je trouve que ça fait, à mon avis, évoluer les choses.
Tu viens de lancer, enfin, un petit peu avant la transition toute parfaite, justement, pour parler du festival à origine contrôlée que vous avez lancé sur Toulouse. Ce serait peut-être bien d'en dire un petit peu plus aux auditeurs et d'expliquer justement concrètement maintenant qu'est-ce qui s'y passe par rapport au début, l'évolution.
Alors c'est vrai que nous on a toujours eu une démarche militante, associative, on a toujours fait beaucoup de choses à ce niveau-là depuis toujours. Et c'est vrai qu'on a ce festival qui s'appelle Origine Contrôlée, ça fait 7 ans qu'on le fait à Toulouse. Donc c'est un festival qui est basé sur l'idée d'un travail sur la mémoire de l'immigration, donc de fait la mémoire de la colonisation et tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Cette mémoire qui pour nous bon, on l'a fait au départ comme quand on fait. Enfin, en général, dans tout ce qu'on fait, on fait d'abord les choses pour nous-mêmes, pour essayer de s'apporter des éléments à nous-mêmes dans notre propre réflexion et amener de la sérénité dans nos visions. Et c'est vrai que du coup, on a fait ce festival dans lequel il y a des débats tous les jours, des discussions tous les jours autour de ces questions, que ce soit la question de l'esclavage, de l'immigration, des militances dans les mouvements immigrés, cette histoire-là particulière en France depuis une centaine d'années. Et puis cette recherche-là, et puis le soir, c'est suivi par des spectacles, que ce soit des spectacles bien sûr de musique, de danse, de théâtre ou autre, quoi. Donc c'est vrai que c'est un espace de ressources. À la fin, à chaque fois, on édite une revue qui est le résultat des débats et des discussions. On invite des gens qui viennent nous parler justement de toute cette histoire-là, des gens qui ont pu écrire ou réfléchir là-dessus. Et ça peut permettre à chacun de justement d'avoir des éléments sur cette histoire-là, qui est une histoire complexe, qui est souvent d'ailleurs une histoire. Ben nous, ça nous fait réaliser d'un point de vue politique, il y a un rapport de domination qui veut être maintenu, encore une fois, par une certaine frange de la population politique, hein, je veux dire, qui veut maintenir un rapport dominant-dominé que nous, on a envie absolument d'exploser. Mais c'est une transversalité qu'on va retrouver aussi dans le sexisme, le racisme, tout ça, c'est un peu pareil, quoi, pour nous.
Mais alors, et là par rapport à ça, en fait, bon, à l'époque de la chanson motivée, vous aviez tenté de participer aux élections avec une liste, etc.
Oui.
Je crois qu'il y a des membres du groupe Zebda qui avaient fait partie de mairie. Ou,
Non, pas vraiment des membres
pas
du
tout à
groupe,
fait.
mais enfin des membres du collectif, parce
Du
que
collectif,
Zebda,
ouais.
ça a toujours été au-delà des membres du groupe, il y a toujours eu un groupe de gens autour. Et donc il y a eu des gens qui effectivement ont été élus à la mairie de Toulouse.
Et maintenant, alors quelle est la suite de tout ça maintenant? Enfin, maintenant vous faites le festival, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu à part, ou est-ce que c'est
Non,
soutenu
disons que c'est à part.
Politiquement,
C'est
c'est
à
à
part
part?
et c'est vrai que c'est important pour nous. C'est une question d'autonomie. On pense que souvent les démarches citoyennes, elles ont été étouffées dans l'œuvre par justement une instrumentalisation institutionnelle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est financé, mais souvent l'élu commet l'erreur de penser que c'est son argent qu'il donne et qu'à partir du moment où il donne de l'aide, il demande une réserve qui n'est pas toujours légitime. On a le droit de s'exprimer à partir du moment où on agit, c'est notre point de vue. Donc nous, on est dans l'idée d'autonomie. Et c'est vrai que depuis, bon, la situation politique s'est pas arrangée en France depuis qu'on a fait ces élections-là, notamment avec, c'était en 2001, les élections municipales. En 2002, il y a eu Le Pen au deuxième tour. Et puis depuis, Sarkozy, président de la République. Donc il y a quand même une évolution avec une libération d'une parole réactionnaire, enfin jusqu'à il y a 2-3 semaines où là, en ce moment, c'est les gens du voyage qui en prennent plein la gueule, comme on dit en France.
En Belgique aussi.
Voilà. Donc là, il y a quand même une espèce de truc qui se lâche, quoi, qui est assez nauséabond. Et c'est vrai que, bon, à l'époque, quand on a fait l'album Motivé, il était directement contre le Front National et la place qu'il occupait, qui était très importante à l'époque. Mais on a senti quand même que depuis 10 ans, le discours, il a glissé naturellement vers un débat normal où on parle de choses qui auraient été juste inacceptables il y a une dizaine d'années. Donc le combat est de rigueur de ce point de vue-là, et l'autonomie pour ça, oui, aussi.
Toulouse, c'est une ville assez particulière dans sa configuration, avec une mairie assez forte. C'est difficile par là-bas de motiver, de bouger les citoyens.
Toulouse est une ville qui a une histoire particulière, tu as bien raison de le dire. C'est une ville qui a accueilli, dans son histoire, qui a accueilli les réfugiés espagnols républicains. Donc c'est une ville qui a une couleur rebelle, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a, je parle de cette histoire espagnole parce qu'elle est très importante à Toulouse. Elle a accueilli cette histoire rebelle et révolutionnaire est prête à revendiquer et à porter une certaine parole. Donc il y a quand même un peu une histoire comme ça du côté de Toulouse. Donc je dirais que c'est pas plus difficile qu'ailleurs, c'est peut-être même plus facile qu'ailleurs de mobiliser sur ces questions-là. Et donc il y a toujours eu une démarche alternative très très forte à Toulouse qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais quand je dis alternative, je dis bien une démarche autonome. Encore une fois, c'est cette démarche qui serait libre de sa parole et de son action.
Si ça vous dit, je pense que moi ça me fait plaisir, en tout cas ça devrait faire plaisir aux auditeurs aussi. On se repasserait bien un petit bout justement de Motivé, on en parlait juste avant.
Eh bien avec plaisir.
Et après on rediscute politique, bien
d'accord,
volontiers.
Spécialement dédicace à tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicace à ceux qui ont résisté par le passé. Motivé. Ami, attendu, le vouloir, les combos sur nos plaines. Ce qu'il fait quand il passe.
motivés. On va rester motivés. S'il vous plaît, ensemble. Motivé, motivé. Il faut rester motivé.
Motivé, motivé.
Il faut se motiver.
Motivé, motivé.
Soyez motivé.
Motivé, motivé.
100% motivé. Motivé, motivé. Motivé, motivé. Motivé, motivé. Motivé, motivé. Motivé.
On va rester motivé pour le face en face. On va rester motivé quand on les voit en face.
Le motivé des Mousse et Hakim avec Mousse dans notre studio. Ils seront tout à l'heure 23h45 sur la scène côté cour ici à Esperanza. Mousse, 20 ans de scène.
Pas mal, hein.
Déjà, hein.
Ah ouais.
Ça date.
Oui, on a vécu on a justement sorti un album live qui s'appelle Vin d'honneur parce que on l'appelait Vin d'honneur parce qu'on voulait faire, bon, d'abord le petit jeu de mots qu'on aime bien faire et puis surtout, ben voilà, évoquer cette idée que ça fait 20 ans qu'on a des honneurs successifs de rencontres, enfin je veux dire, je parle pas seulement de réussite ou de la chance qu'on a eu d'avoir de la reconnaissance une reconnaissance importante, mais de toutes les rencontres qu'on a pu faire au quotidien dans les festivals, dans les démarches, dans les concerts, enfin, tout ça c'est vraiment une chance énorme.
Toi et ton frère, comment vous êtes tombés dans la musique au départ, il y a 20 ans, mais j'imagine déjà avant?
Oh, disons que avant, on n'imaginait pas du tout qu'on pouvait avoir la moindre opportunité de faire ce métier qui nous faisait, comme tout le monde, fantasmer. Mais vraiment, comme on n'est pas du tout grandi dans un univers, sur en gros, il n'y avait pas de piano à la maison, quoi. C'est avec Zebda, quoi. C'est-à-dire que on a toujours été dans une démarche associative, et c'est vrai que c'est la particularité de notre histoire. C'est pas le groupe Zebda qui a créé l'association une fois que le groupe a existé. C'est l'inverse. On avait une association dans notre quartier.
Qui s'appelait déjà Zebda ?
Non, qui s'appelait Vite Écrit, ça voulait dire vidéo, théâtre et écriture. C'est une association dans notre quartier, au bas de l'immeuble, et dans lequel on avait 14 ans, on allait faire du théâtre et des choses comme ça. Et puis,
tu étais déjà avec ton frère à cette époque-là ?
Ah oui, bah, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais,
c'est ça l'avantage. Vous partagez déjà ça dans l'association.
Eh ben oui, on a un an d'écart, donc voilà, c'est vrai qu'on était un peu dans les mêmes registres, et c'est vrai qu'on était déjà dans ce truc-là. Il était un peu plus rockabilly, moi j'étais un peu funky, et voilà, lui il était un peu plus rockab à cette époque-là, il écoutait Dico Crane, moi j'écoutais plus Kool & the Gang et tout ça, Michael Jackson, et puis on s'est rejoint un peu sur Marley et tout ça après, et puis après on s'est mis un peu à écouter les Clash, du Robadub et des choses comme ça, où on était très branché Sound System. Et puis il s'est trouvé que dans l'association, justement, il y a eu un film qui s'est fait autour d'un groupe, et dans ce groupe, et donc le groupe est né pour le film, et ça s'appelait Zebda, pour le film direct, et du coup on a continué après le film à faire Zebda.
Des nouvelles peut-être du troisième Larron de Zebda,
Magie Tcherfi. Ouais, ben Magie, il a fait deux livres que je vous conseille, qui s'appelle Livre de famille et l'autre qui s'appelle La Trempe.
Il a fait des beaux disques aussi. Hein,
il a fait aussi deux albums, voilà, qui sont. Il a cité des étoiles et pas en vivant avec son chien, avec Magie dont voilà, il va bien. Je crois qu'il est en vacances en Algérie en ce moment.
Donc il continue l'écriture et à la la fois musique de son côté quoi.
Oui il continue à écrire, il a aussi écrit pour nous et pour d'autres gens, il a écrit pour Tiken, il a écrit pour d'autres gens aussi peut-être un peu moins connus et puis en ce moment pour tout vous dire on est en train de travailler ensemble sur un cinquième album de Zelda.
Voilà, alors
oui, juste en deux mots, c'est sûr, il va sortir cet album. Vous
c'est sûr, si la santé nous préserve. Mais non, normalement, 2011, enfin, on est plus en train de se dire qu'on aimerait sortir cet album avant, à la fin 2011, quoi. Donc on n'y est pas tout de suite, mais on est en train de travailler dessus en ce moment. C'est-à-dire, on a fait une pause avec Zelda, on n'a rien fait ensemble pendant 6 ans, enfin, sous le nom de Zelda.
Créativement, ça se passe bien, vous retrouvez la fibre, vous retrouvez le...
Alors nous on part du principe que d'abord il y a l'envie, c'est un peu notre même, c'est un peu des définitions qu'on aime bien avoir, c'est l'envie d'en être, de participer, donc ça c'est sûr. Donc après on sait que c'est pas des choses faciles, faire des albums, on a toujours eu un côté laborieux dans notre manière de faire les choses, c'est-à-dire ça nous prend du temps, on s'accroche, on travaille dur, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce côté génial où on fait des albums en 3 jours, donc on est dessus en ce moment, donc on a la conviction que ça va se faire, oui.
C'est peut-être justement quelque chose dont tu peux nous parler. Comment se passe la création entre vous ?
Eh bien alors disons qu'il n'y a pas de règles. D'abord on essaie de ne pas se donner des règles. On essaie d'être concentré, que surtout tout le monde soit très impliqué.
Ça se passe plutôt à trois, plutôt chacun de son côté. Il y a des moments qui amène une idée, les autres bondissent dessus.
Voilà exactement, c'est à la fois tout ce que tu viens de dire. Ça peut être à trois, comme ça peut être... Il y a des moments à trois, il y a des moments plus solitaires, parce qu'il y a des moments où on a besoin d'une intimité pour se lâcher et aller chercher des mélodies. Il y a des croisements de lecture, des croisements d'artistes, d'écoute, enfin des moments comme ça, des moments de vie tout simple aussi, des moments où on mange juste un morceau ensemble, qui sont des moments qui comptent, parce qu'on fait des points, des bilans, et puis après on essaie de créer ce volume-là vraiment, de se le donner, et puis après on a une méthode qui nous permet de produire l'album petit à petit, parce qu'on n'est pas que tous les trois, il y a aussi Rémi et Joël, les musiciens, qui eux vont essayer d'installer un peu une façon de faire pour que le son se mette en place petit à petit. Après nous on définit nos thèmes au fur et à mesure en fonction de nos conversations, de nos discussions, de nos échanges politiques, de nos débats, qui peuvent durer des semaines et des semaines, d'arriver à trouver une justesse quoi.
Il y a beaucoup de confrontations entre vous, justement, même politiquement, dans ces débats-là ?
Ah ben oui, bien sûr, et c'est même nécessaire. C'est-à-dire qu'il y en a, bon, on est globalement du même point de vue politique. Je veux dire, il n'y en a aucun qui a l'UMP, je vous rassure. Non, on a un point de vue politique commun, global, et puis après, sur des détails, sur des expressions plus ou moins radicales, on va se... Et d'ailleurs, souvent, on n'a pas vraiment un qui est plus radical que l'autre, mais la radicalité s'exprime de manière différente chez chacun. Il y a des fois, par exemple, des thèmes qu'on a envie d'aborder comme ça.
Et vous pouvez aller au clash aussi, parfois, entre vous, ou vous arrivez toujours à temporiser?
Non, le clash ultime n'existe pas chez nous, hein, parce qu'on est dans une histoire de famille, une histoire d'amour aussi. Et donc, il y a des embrouilles, il y a des cris, il y a des engueulades, bien sûr, mais ça se règle assez vite. Quoi.
Sur la composition, enfin... On sent que, bon, il y a le texte. Le texte, c'est toujours souvent des histoires assez. C'est accessible, hein, je trouve. C'est peut-être pas voulu, mais. Enfin, si, on se demande s'il n'y a pas quelque part une volonté de vraiment faire en sorte que, voilà, les chansons sont.
Nous, ce qu'on aime, pour tout te dire, franchement, en termes de texte et de littérature, enfin, en tout cas, en chanson, on aime beaucoup. On aime ce qu'on appelle, nous, la poésie sociale. C'est-à-dire, on aime cette poésie qui raconte l'histoire des gens. Et pas seulement le quotidien des gens. C'est une vision globale. L'histoire, cette histoire-là nous passionne. Voilà. C'est-à-dire qu'on aime bien dans les chansons qu'il y ait ce parfum d'histoire comme ça, de l'histoire des gens qui. C'est là-dessus que nous on trouve qu'il y a beaucoup de mépris, notamment dans le rapport à l'histoire des gens. Souvent on la nie. C'est une façon aussi de dire oui, mais bon, de toute façon vous êtes tous pareils, donc on met tout le monde dans le même sac et on dit voilà. On nie l'histoire affective des gens, on nie le parcours de leurs parents, de leurs grands-parents ou d'eux-mêmes, les efforts qu'ils ont dû faire pour s'en sortir, le côté... Pour nous, les vrais héros, ce sont ceux qui, justement, dans leur histoire, ont affirmé des choses, que ce soit des filles d'origine maghrébine qui vont sortir en disant « Non, je veux vivre ma vie », que ce soit des... Enfin, c'est un exemple comme un autre, mais il y en a plein des histoires comme ça. Les filles enfants d'ouvriers qui disent « Oui, moi, je veux accéder à certaines choses ». Des gars qui, par exemple, dans un milieu populaire... Dans un quartier populaire au milieu d'une foule hip-hop, va dire moi j'écoute du hard rock, voilà, c'est ça un héros. Pour nous, c'est tous ceux qui essaient de se marquer, voilà.
De s'affirmer. Quoi.
De s'affirmer. Donc c'est vrai qu'on essaie d'écrire des. Bon, après, la question politique, on aime bien l'aborder de la manière la plus juste possible, surtout en essayant de dire les choses, mais sans. Enfin, bon, en essayant d'éviter la démagogie, bien sûr.
Justement, vous avez des thèmes de prédilection comme ça dans les titres politiques, notamment concernant l'immigration, l'identité nationale. Ça confirme le fait que vous êtes des artistes engagés. Ça veut dire quoi aujourd'hui en 2010 être un artiste engagé?
Oh ben ça veut dire la même chose que de dire un boulanger engagé qui fait son pain comme il faut avec amour et avec passion, qui va choisir les bons produits. Enfin, je veux dire, c'est un exemple qu'on a, mais c'est vrai que cette dénomination, elle est valable pour moi que si on l'associe à toutes les professions. Il y a une manière de faire les choses. Alors après, on n'est pas obligé d'être engagé de manière explicite. Il peut y avoir des artistes qui disent pas forcément les choses aussi clairement que nous, enfin, ou de manière aussi politique que nous, mais qui dans leur démarche ont une démarche pour nous engagée, c'est-à-dire ils font les choses avec de la conviction. Alors c'est vrai que nous, on est plutôt du genre à penser que...
C'est quand même une marque de fabrique prononcée, quoi, chez vous. Hein.
Nous, on aime bien... Nous, il y a une notion de prise de parole dans ce qu'on fait, c'est vrai. Il y a une action d'expression populaire et d'éducation populaire très importante. On aime bien cette idée qu'à partir du moment où on a la chance de faire de la musique, c'est pour prendre la parole et donc on la prend vraiment. Ça veut pas dire qu'on est des porte-parole, ça veut juste dire qu'on la prend dans ce sens-là. Et donc à partir de là, on peut dire qu'on est engagé, mais en même temps, c'est une grande tradition dans la chanson en français. On ne l'a pas inventé, quoi.
Vous vous sentez modèle quelque part ?
Modèle, non, c'est l'exemplarité, c'est tout à fait le genre de truc qu'on rejette parce que c'est tout à fait ce qui est utilisé par les réactionnaires qui vont dire, par exemple, en parlant de Zidane, regardez, il y arrive bien lui. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, quoi. Ça, c'est une manière de nier l'histoire des gens que de mettre quelqu'un en modèle ou en exemplarité, de dire, mais il y arrive bien lui. C'est comme si moi, quand j'ai fait tomber la chemise, je passais partout à la télé, c'est comme si quelqu'un disait, mais regarde, il y arrive. Oui, mais toi, tu y arrives, regarde pourquoi eux, ils n'y arrivent pas. Mais voilà. Ça veut dire que tu vas nier son histoire à lui par rapport à la mienne. Ça veut dire que tu vas même pas essayer de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'il a vécu lui en tant qu'enfant. Est-ce qu'il a une sécurité affective? Est-ce qu'il a une sécurité sociale et affective, culturelle? Est-ce qu'il a les éléments pour se confronter à cette horreur qu'on peut vivre quand on est enfant d'immigration algérienne, maghrébine, africaine au sens large? Au quotidien, la discrimination, le racisme, c'est des choses qu'on vit. On n'est pas là à pleurer, on n'est pas des victimes. On se bat contre ça. Mais c'est juste que ça provoque des traumatismes. C'est la réalité. C'est la réalité quand t'es regardé. Le sentiment d'être suspect, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas.
Et tu l'as vécu, toi, ou tu le vis encore, ça, cette idée de racisme?
Je l'ai vécu toute mon adolescence, toute ma jeunesse, je l'ai vécu. Je rentrais dans un magasin, on me suivait. J'allais jouer au foot dans un bled, on me criait bougnoul sur le bord de la touche. Je l'ai vécu toute mon enfance, quoi, je veux dire.
Au
jour le jour, j'étais contrôlé. J'avais des potes à moi qui étaient d'origine espagnole, donc blancs, on va dire. Et bien, à 18 ans, ils n'avaient jamais été contrôlés par la police, moi déjà 20 fois. C'est des choses comme ça. Après, je suis pas une victime. J'ai eu les armes affectives qui m'ont permis de dépasser le problème, de dire bon, ok, et surtout de pas mordre quand on me trique, quoi, quand on m'exclut, de pas mordre et de dire bon, ok, toi t'es un blaireau, je vais faire le tour.
Tu as l'impression aujourd'hui, Mousse, que la France n'arrive pas à assumer son passé colonialiste. On sait qu'il y a eu des événements très douloureux, notamment dans les rues de Paris, dans les années 60. Tu as l'impression que la France, aujourd'hui, elle a du mal à assumer ça, encore aujourd'hui?
Ça évolue. Depuis une dizaine d'années, les choses évoluent malgré tout, dans le sens où il y a une reconnaissance un peu de cette histoire-là, et des tas de gens font ce travail-là, ça c'est sûr. Après, il y a une domination, en ce moment, d'une certaine catégorie d'intellectuels nouveaux réactionnaires, intellectuels donc forcément par déclinaison politique, qui utilisent ce thème-là pour refermer le plus possible. Ils ont peur que ça soit trop posé. Alors ils manipulent et ils font de la propagande autour de ça, c'est ce qu'on a vu ces derniers mois, et notamment c'est ce qui est relayé par le gouvernement, et notamment par Nicolas Sarkozy, qui fait, si tu veux, qui, de notre point de vue, s'il est élu lui président de la République, c'est le résultat direct de Le Pen au deuxième tour. C'est le résultat direct de cette logique-là, parce qu'il a fait un hold-up à l'extrême droite qui lui a permis d'être élu. Donc oui, il y a des gens, il y a une confrontation entre deux visions des choses. Après, la population française est peut-être plus à même de comprendre ça que ce qu'on imagine.
Pour finir, on a une petite surprise.
Ouais, c'est un gâteau.
On appelle ça, tu vas voir, attends, jingle.
Et maintenant, la question à Violaine. La question à Violaine.
Violaine, c'est une copine qui devait venir avec nous. Elle n'a pas pu, elle a dû partir en Argentine parce qu'elle a eu des problèmes personnels. Et donc, elle est là avec nous par l'intermédiaire de petites questions comme ça.
Yes.
Ça lui fait plaisir qu'on les fasse passer à tous les gens qui viennent dans le studio.
Ok, donc au hasard, je tiens
une mousse. Tu dis, tu
la question à Violaine. Là, à Violaine, hein. J'insiste.
Ok, alors... le principal trait de votre caractère?
Ah.
Ben, je suis très gentil. Non, je sais pas. le principal trait de mon caractère, non, là, il aurait fallu quelqu'un d'autre qui le dise, peut-être. Le principal trait de mon caractère.
Nous enchaînerons avec un interlude musical.
Enchaînons.
Ça, c'est pour te permettre de réfléchir.
Vas-y, réfléchis,
je pense.
Okay. Tiens, peut-être qu'on peut la tourner un peu différemment, parce qu'avec ton frère, les caractères, ils sont très différents.
Ça, c'est vrai, on est assez complémentaires. Il est beaucoup plus instinctif, on va dire, je pense. C'est une de ses qualités. On va parler de ses qualités, hein. Je vais pas donner tout de suite ses défauts.
peux aussi.
Vas-y, donc parle de ton frère un peu.
Ouais, mais de toute façon, c'est la même chose, finalement. Très instinctif, donc qualité, défaut. Hein. C'est souvent ça, une bonne qualité fait un beau défaut. Hein.
Mais souvent, les défauts de ses qualités, vice versa.
Voilà, ouais. Voilà, exactement. Donc, moi, je dirais que je suis. C'est pareil, je suis assez.
Plus réfléchi.
Voilà, plus réfléchi, exactement. Donc, plus réfléchi, donc des fois c'est bien parce que ça permet de voir les choses d'une manière plus globale et puis quelquefois ça me rend un peu mou. Enfin, j'exagère un peu, mais un peu long à la détente.
Il est plus,
il me dit on y va, allez, c'est bon, il faut réagir, Mousse, il faut y aller. Et moi je dis, attends, il faut bien calculer comment on va le faire. Alors des fois ça amène des bons fins, voilà.
Finalement vous vous complétez pas mal tous les deux quand.
Complètement, c'est vrai qu'en plus honnêtement en plus on est frangin et on a un an d'écart et c'est vrai on le dit souvent mais à l'âge tu vois où les frangins ou les frangines qui s'entendent bien, ben ont des vies d'adultes qui se séparent parce qu'on a des vies professionnelles différentes. Nous à cet âge-là pile on a eu la chance de faire de la musique ensemble et on a comme on dit souvent prolongé l'enfance. Donc quelque part on prolonge ça.
On sent ça d'ailleurs sur scène, cette complicité très très forte entre les deux, même ne fût-ce que parfois entre les regards. Oui, on sent quelque chose qui passe.
Ouais, une solidarité inconditionnelle, c'est-à-dire que c'est pas possible que il y a quatre yeux quoi, c'est vraiment ça.
20 ans de scène dans les années qui viennent, par exemple, tu t'imagines monter sur scène sans lui ou ça te paraît complètement inconcevable?
Non, c'est pas inconcevable, j'irai pas ce cas-là parce que je sais que moi en tout cas, je m'imagine pas par exemple spécialement moi, mais je l'imagine bien lui. Voilà, mais tu vois, c'est un peu ça. C'est
impulsif. Parce que,
ouais, mais c'est-à-dire où lui, peut-être qu'il dira qu'il m'imagine bien moi, mais c'est vrai qu'on est plutôt comme ça. Parce qu'il a beaucoup de talent sur ce point de vue-là. Bon, et donc, du coup, on n'a pas envie. Hein, on est bien ensemble sur scène, c'est assez rassurant.
Pour conclure, on va écouter la carte de résidence. J'ai juste une petite dernière question. Mousse, je t'entendais tout à l'heure dire de parler des influences. Tu parlais du funk, du reggae, etc. T'as pas parlé de cette musique d'Algérie que vous avez joué par la suite, c'est pas les premières influences que vous avez eues en fait, hein.
Non, ouais, c'est vrai, c'est cette musique, donc c'est la musique de nos parents, celle qu'on écoutait à la maison ou dans la voiture, c'est la musique donc d'artistes immigrés, d'Aman El Arachi, Siman Azem, des artistes, nos parents, notre père maçon, ouvrier, et notre mère, femme au foyer, sont mélomanes, ils ont toujours écouté beaucoup de musique, donc c'est vrai que nous, on écoutait ça à la maison et dehors, on écoutait ce que je disais tout à l'heure avec les potes, on avait une musique en commun. Et cette musique-là, quand même, à l'adolescence, c'est vrai, comme souvent, on l'a rejetée. Parce que c'était trop, ça nous saoulait.
La voilà, musique à papa, quoi.
Oui, c'est un côté comme ça, je pense que tout le monde peut dire la même chose. Et puis après, c'est après qu'on a. On a compris à quel point elle était ancrée en nous parce que justement on avait mesuré et compris par la suite que ces chansons-là l'ont aidé à tenir, à supporter sa condition et qu'il y avait une parole il y avait des textes et des paroles dans ces chansons qui étaient vraiment une histoire de paroles prises et donc de signes de non-soumission, mais c'est vachement important, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être subi, ils ont été invisibles, ça c'est toutes les immigrations, je pense qu'en Belgique c'est pareil, c'est pas parce qu'on est invisible et qu'on subit qu'on est soumis, il y a qu'à écouter les artistes pour voir que la parole est bien là, et ça c'est quand même un signe important.
On pourrait parler des heures
et
hein, là-dessus.
Heures.
On peut quand même préciser aux auditeurs qu'on aura la grande chance de retrouver donc Mousse avec son frère Hakim après leur concert, donc concert à 23h45 côté Courussi Esperanza, et on vous retrouve donc en studio pour une carte blanche qui
vous
s'annonce à mon
à
avis mémorable.
À
une heure et demie on m'a dit.
Ah, une heure trente du matin.
Une heure quarante-cinq c'est trop tard.
Vous serez pas trop fatigué, non, ça ira.
Hein,
vous serez pas trop fatigué.
À mon avis, là déjà que j'ai une voix du mai, je pense que j'aurai plus de voix, mais c'est pas grave.